Pourquoi certaines personnes peuvent passer des heures sur un projet complexe alors que d'autres ont du mal à commencer une simple lecture? En effet, le niveau de motivation peut varier beaucoup d'une personne à l'autre, mais aussi en fonction des tâches qu'on nous propose. Avec l'essor de l'enseignement hybride, de l'intelligence artificielle et de la diversité des profils d'apprenants, le monde de l'éducation évolue rapidement. Dans ce contexte en pleine transformation, comprendre la dynamique motivationnelle est crucial. C'est pas juste une question de donner envie d'apprendre, mais aussi d'aider à maintenir l'engagement et la persévérance tout au long du parcours. Dans cet épisode, on décortique la dynamique motivationnelle et on explore ensemble comment ce concept se traduit concrètement dans le quotidien des CP.
Les beaux rôles avec Géraldine Lussier.
Pour aborder le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues du cadre de porte, Alexandre Dalpan, CP à l'Université Laval, et Marie-Noëlle Corriveau-Tendland, CP au Cégep de Lévis. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Allô.
Mes premières expériences avec la dynamique motivationnelle remontent à quand j'étais étudiante. J'avoue que j'ai toujours été assez crinquée, motivée comme étudiante, mais aussi dans ma vie professionnelle. Quand j'ai commencé comme prof, j'étais très passionnée. J'étais prof de nutrition. Puis parfois, ben, j'avoue qu'en faisant face à mes étudiants complètement démotivés, ben, c'était pas toujours facile, mais j'ai eu une formation en pédagogie, puis on a abordé là, c'est les composantes de la dynamique motivationnelle. Mm-hmm. Fait que j'avoue que ça m'a aidée. Puis comme CP, ben, j'essaie d'entretenir cette dynamique motivationnelle-là beaucoup avec mon équipe. Partager avec mon équipe, c'est comme une soupape, là, ça aide vraiment quand c'est plus difficile. Puis sinon, ben, le fait d'être toujours en apprentissage comme CP, de pouvoir relever des défis, moi, j'avoue que ça me motive beaucoup. Mm-hmm. Je sais pas pour toi, Marie-Noëlle.
Tu sais, dans la notion de dynamique motivationnelle, il y a tout l'aspect de la persévérance, tu sais, mais on dirait que moi, comme étudiante, je le sentais pas, j'avais de la facilité, fait que j'étais comme... Je pense pas que j'ai réfléchi tant que ça à ma persévérance comme étudiante. Par contre, comme enseignante, c'est vraiment devenu quelque chose d'intuitif pour moi de regarder ma classe puis de dire, OK, c'est quoi là qui va les allumer? Sont où les étoiles dans leurs yeux? Puis bien, évidemment, comme CP, là, après ça, il y a un petit pas de recul, on analyse des situations. Puis je me suis vraiment, vraiment penchée, réfléchi beaucoup sur la dynamique motivationnelle nommée telle quelle. Dans le cadre d'une journée pédagogique où le besoin avait été clairement énoncé par l'équipe de profs de trouver, dans le fond, comment nourrir la motivation des étudiantes et des étudiants qui revenaient là, post-COVID. Là. Donc, c'est vraiment là ouais, qu'on a décortiqué.
C'est un atelier qui doit être très pertinent, ouais, c'est oui, dans le contexte du moment, c'est sûr. Mais ça me fait penser à des affaires en tant qu'étudiant aussi, le plaisir d'apprendre, tout comme vous, d'être impliqué, découvrir de nouvelles choses dans les cours. Le fait de pouvoir gérer ton travail aussi comme étudiant, des fois, ça peut être avec des bonnes choses et des mauvaises choses, mais si tu arrives à t'organiser, c'est une façon d'avoir une certaine autonomie. Ça me motivait beaucoup. Puis, bien évidemment, l'ambiance étudiante est autant légère que stimulante. Là, cette ambiance-là est quand même très utile. Puis, à un moment, bah, malheureusement, je suis passé du côté obscur de la force, je suis devenu prof. Puis bah, là, c'est quand même ce qui m'a gardé motivé, c'est les étudiants en face, les échanges riches, l'espèce de naïveté des fois dans les cours, c'est très stimulant. La valeur que j'accorde à l'éducation, je pense tout comme vous, là, c'est ça, je trouve que c'est ce qui me nourrit énormément. Puis après, ben, c'est devenu pire, je suis devenu CP. Fait que là, CP, il a fallu que je trouve un peu ma place. J'ai eu des super collègues, cultivés, passionnés, ça m'a beaucoup enrichi aussi là-dessus. Puis une certaine, tu sais, j'ai appris à me connaître un peu, une certaine perception de mes compétences, une certaine aisance aussi, mon niveau de contrôle sur les tâches que j'avais, certaines tâches, pas toutes. Ça jouait beaucoup aussi dans ma motivation. C'est ce qui fait que ça fait déjà une couple d'années que je suis sur cette chaise-là. Ouais.
Je trouve que c'est un concept qui est vraiment essentiel pour comprendre comment une personne va s'engager dans l'apprentissage, mais aussi dans le changement. Pour nous, CP, c'est utile à différents niveaux pour, évidemment, outiller les profs qui veulent motiver leurs étudiants, en tout cas, maintenir leur motivation, mais aussi pour accompagner les profs dans le changement.
Oui.
Parce que c'est pas rare que les profs, des fois, maintiennent leur pratique et c'est pas toujours facile de les engager dans un changement. Vrai. Donc, la dynamique motivationnelle, c'est des concepts qui peuvent nous aider. Puis aussi pour nous, comme CP, ben c'est vraiment un levier de motivation là, dans notre quotidien, je crois.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi sur ce dernier point. Puis, tu sais, quand on sait ce qui nous anime, finalement, ben, ça nourrit notre propre dynamique motivationnelle. Puis, on peut entretenir cette flamme puis surfer là-dessus, finalement, avec le temps. Moi, je sais que personnellement, j'identifie ce que ça me prend, c'est de la stimulation intellectuelle. Si j'en ai pas, je m'ennuie, je m'endors. J'ai besoin de défis un peu fous qui me sortent des sentiers. Puis, des fois, c'est de l'inconfort, mais c'est de l'inconfort qui me stimule. Je sais pas si toi, tu as quelque chose qui va te chercher un peu plus dans tes pratiques, Emmanuel.
Mais c'est la beauté de notre travail de CP, en fait. C'est qu'on a cette espèce de grande autonomie-là, puis quand, à un moment donné, la motivation tombe, on a le luxe, en fait, de pouvoir aller chercher des défis ailleurs, ailleurs dans le même cégep idéalement, là, mais des défis qui vont vraiment nous stimuler, parce qu'on a cette liberté-là.
C'est vrai.
Après ça, ben, tu sais, dans notre travail de CP en accompagnement, on a aussi un autre luxe. Finalement, on est très luxueux. De pouvoir analyser des situations avec un certain recul puis avoir du temps comparativement à les équipes qu'on accompagne. Donc, finalement, comme CP, on est comme des moteurs pour stimuler la fameuse dynamique motivationnelle de nos équipes.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Puis j'aime beaucoup ta vision des choses, là, l'espèce de moteur et autres. Puis je me dis toujours, plutôt que faire l'autruche puis d'attendre, autant être proactif puis faire en sorte que les choses bougent et finalement ça se mette en place.
Oui, puis d'autant plus avec le roulement de personnel, notamment dans les équipes de gestion. Il faut essayer de trouver des aspects positifs à c'est tout vrai. Ce roulement-là. Puis ben, ça peut procurer un sentiment d'insécurité, mais de l'autre côté, par exemple, mais cette fameuse autonomie professionnelle, elle peut créer de l'inconfort, elle peut créer de l'insécurité, mais elle peut aussi, au contraire, nous procurer un grand sentiment de motivation.
Oui, tout à fait.
Par contre, je trouve ça difficile d'accompagner des personnes ou des équipes qui viennent à reculons, là, qui viennent avec peu d'intérêt. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Puis le manque de temps, ça ne nous permet pas toujours de mettre en place ce qu'il faut pour développer cette dynamique motivationnelle. Puis il faudrait souvent un accompagnement qui est prolongé pour nourrir la motivation, favoriser l'engagement, puis c'est pas toujours possible.
Non, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est vraiment quand on accompagne les profs dans ce genre de situation, puis c'est pas toujours évident. Et c'est le temps qui nous manque, là. Je trouve que perso, en tant que CP, il y a quand même un certain risque, des fois, quand nous, on pense qu'on a plus de temps qu'un prof, par nos fonctions, à vouloir toujours être en mode solution ou aide à tout prix, sans laisser forcément assez de place à la personne, au prof, pour qu'il trouve lui-même, finalement, une voie d'action intéressante pour régler son problème. Mais moi, le CP, je le vois toujours un peu comme celui ou celle qui va sauver la veuve et l'orphelin dans la fonction pédagogique qu'on a. Puis, tu sais, faire en sorte que tout fonctionne, puis vite. C'est pas la réalité. Puis surtout, en fonctionnant ainsi, la motivation elle va être juste extrinsèque pour le prof. Ça, ça pose un problème parce que le jour où le CP disparaît de la carte, bah, le prof, il avancera plus dans son développement professionnel. Puis ça, je trouve que c'est difficile un petit peu. Puis des fois, tu as affaire à des profs qui sont plus blasés, désabusés parce qu'il y a des nouvelles cohortes étudiantes qui ne sont pas forcément dans la même dynamique qu'avant. C'est dur de redorer sa motivation. Je l'ai vécu en tant que prof dans ces cas-là. C'est pas facile. Fait que notre rôle, c'est vraiment de les aider à identifier les enjeux, je pense, sous-jacents à tout ça pour bien les accompagner finalement dans leur travail.
Mais tellement, en fait, s'enlever un peu une pression d'être motivé à la place des autres.
Ouais,
donc, comment je peux soutenir, stimuler la motivation des personnes que j'accompagne, mais garder dans le fond en tête notre zone de contrôle à nous comme CP. Puis les profs qui arrivent puis qui sont désabusés ou fâchés ou ben ils peuvent faire leur petite crise du bacon là, mais après ça tu sais je veux dire comment on se ressaisit puis c'est quoi ton carré de sable, c'est quoi ta zone d'influence, mettons les aider à la limite à la voir cette zone là, ce carré de sable là. Puis honnêtement c'est la même chose au sein de notre équipe de CP. Dans le fond, est-ce que tout doit reposer comme dynamique motivationnelle sur les épaules d'une seule personne ou est-ce qu'on ne peut pas, s'il vous plaît, partager, ben, je vais dire le fardeau, mais en tout cas la tâche d'être crinqué finalement?
Ouais, c'est le fun, ça encourage quand on a un qui est crinqué, un autre, il y a une belle dynamique. Puis c'est pareil, on ne fait pas que des dossiers difficiles, il y a aussi des dossiers le fun sur lesquels on travaille, pour lesquels on peut accompagner des profs. Tu sais, je pensais à quelque chose, un exemple, ça m'est arrivé une fois avec un groupe d'enseignants là, qui ont vraiment trippé sur un dossier, puis moi aussi là-dedans. Là. On devait intégrer des casques de réalité virtuelle dans un cours pour un programme de technique en délinquance, intervention en délinquance. Puis l'idée, c'était de stimuler les étudiants en simulant des situations problématiques auxquelles ils auraient pas pu faire face en classe ou en stage. Et tout le monde a trippé dans ce projet-là de 6 mois. Puis là, c'est un projet qui tourne. Fait que ça marche. On peut aussi être dans des beaux projets puis avoir cette motivation qui vient toute seule. Ouais.
J'aime bien l'idée de responsabilité partagée. Et nourrissons-nous des dossiers motivants. Un grand merci pour ce partage.
Merci beaucoup.
Oui, merci à vous deux.
J'accueille Isabelle Cabot, professeure et chercheuse au Collège Édouard-Montpetit. Elle enseigne la psychologie au collégial depuis une vingtaine d'années et se passionne pour la recherche sur la motivation depuis 15 ans. D'ailleurs, selon ses filles, elle est carrément trop motivée, voire un peu crinquée. Bonjour Isabelle.
Bonjour Géraldine.
Donc, je comprends que tes filles n'arrivent pas à suivre ton niveau d'énergie.
Moi, je pense qu'ils y arrivent très bien.
Pour commencer, qu'est-ce qui influence la motivation?
Ça, c'est une super belle question. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modèles théoriques qui expliquent la motivation. Il y a des modèles humanistes qui se concentrent sur les besoins humains pour stimuler la motivation. Il y a des modèles plus socio-cognitifs qui sont très utilisés dans le domaine de l'éducation. Moi, je travaille presque juste avec les modèles socio-cognitifs, comme celui d'Eccles et Wakefield, ou comme le modèle de Vio, qui est très connu au post-secondaire au Québec. Les modèles socio-cognitifs travaillent avec la motivation au centre et des déterminants, des prédicteurs de motivation qui sont très spécifiques, très bien identifiés et qui influencent directement la motivation. C'est comme une recette. La motivation, c'est comme un gâteau. avec des ingrédients dedans. Les ingrédients, c'est les déterminants. Si on joue avec la quantité d'ingrédients, ben on va modifier le goût du gâteau. C'est comme ça que ça marche, les modèles socio-cognitifs. Tu vois que c'est très cognitif, c'est très rationnel. Il y a des déterminants, ils influencent la motivation et on peut jouer dessus.
Et c'est quoi ces ingrédients, voire déterminants?
Moi, je travaille principalement avec 4 ingrédients. Les 2 premiers sont souvent traités ensemble dans la littérature, l'utilité et l'intérêt. Vio, il appelle ça la valeur accordée à la tâche. Donc, moi, mon préféré, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est la seule variable motivationnelle qui est composée d'émotions. Je dirais que c'est pour ça que c'est ma préférée. L'utilité, c'est la perception que j'ai de la compatibilité entre la tâche puis mes objectifs personnels. Ensuite, le 3e ingrédient, c'est le sentiment de compétence. Est-ce que je me sens capable de bien faire la tâche? Puis la contrôlabilité, c'est est-ce que je perçois que j'ai du contrôle ou ce que je peux décider de comment ça va se dérouler cette tâche-là?
Puis quelle stratégie tu recommandes pour cultiver puis développer la motivation chez les professeurs qu'on accompagne?
Les stratégies que je recommande, c'est celles qui sont spécifiques à ces déterminants-là. OK? Donc, si on prend le premier, l'intérêt, la littérature montre que la stratégie la plus efficace, scientifiquement, c'est de pairer stratégiquement une tâche qu'on aime déjà faire, qui nous intéresse, avec la tâche qui ne nous intéresse pas. L'intérêt, c'est vraiment composé d'émotions. C'est la seule variable motivationnelle composée d'émotions. C'est pour ça que c'est ma variable préférée.
OK.
Et pour savoir si ma dynamique motivationnelle est affectée par un manque d'intérêt, il faut que je me pose différentes questions comme « Est-ce que j'aime ça, cette tâche-là? » Si la réponse est « Non, j'aime pas ça, faire ça », ben là, c'est l'intérêt le problème.
Okay.
Puis pour stimuler l'intérêt, il faut faire un match, il faut créer un match entre quelque chose qui nous intéresse puis cette tâche-là qui ne nous intéresse pas, comme par exemple, corriger dans un café, pour moi, ou mettre de la bonne musique pour faire le ménage, ou tu sais, il faut personnellement faire ce match-là.
Okay.
Si je me rends compte que la variable motivationnelle qui fait défaut dans ma recette de motivation, c'est l'utilité, c'est que je ne vois pas à quoi ça va me servir de faire cette tâche-là ou je ne vois pas comment cette tâche-là va me permettre d'atteindre mes objectifs. Si c'est ça le problème, là, je suis dans l'utilité. Puis pour stimuler l'utilité, l'auteur que j'aime bien qui a travaillé là-dessus, c'est Ullman. Lui, la stratégie qu'il a le plus documentée, c'est de demander à la personne de créer elle-même ou d'imaginer des situations qui pourraient arriver dans lesquelles ça pourrait lui être utile, cette tâche-là qu'elle a à faire. Puis quand on ne trouve pas d'exemple, il faut penser aux gens qu'on connaît, qui sont autour de nous, puis se demander comment est-ce que ça pourrait être utile à telle
pour personne. Pour
d'autres personnes. Oui, pour des vraies personnes qu'on connaît vraiment. Quand il y a une connexion comme ça avec nous-mêmes, ça fonctionne. On a vu scientifiquement que l'utilité augmente, puis là, j'ai un effet positif sur ma motivation. Si c'est le sentiment de compétence qui ne fonctionne pas bien, ça, c'est quand j'ai l'impression que je n'y arriverai pas, que je ne serai pas capable de bien faire la tâche qu'on me demande de faire. Ça, c'est le sentiment de compétence. Puis, une des façons de simuler le sentiment de compétence, c'est de fractionner la tâche en plus petites bouchées. Et attention, ce qui est important, c'est qu'on ne passe pas à la bouchée numéro 2 tant qu'on ne se sent pas compétent avec la bouchée numéro 1.
Okay.
Le problème en éducation, c'est que le rythme des bouchées est imposé. Fait que là, l'étudiant se retrouve avec submergé de sentiments d'incompétence. Mais quand on a cette chance-là de fractionner en petites bouchées et d'y aller, et prendre une par une, puis de passer à la suivante, seulement quand on se sent confortable avec la précédente, ça construit notre sentiment de compétence. Et là, j'ai encore une influence positive sur ma motivation. La 4e bouchée, c'est la contrôlabilité. Ça, c'est une variable bien étudiée par Vio. La contrôlabilité, c'est est-ce que je perçois que j'ai du contrôle sur ce qui est en train de se passer ou est-ce que je peux décider de certaines choses sur la tâche que j'ai à faire. Les humains, là, on a vraiment besoin d'avoir l'impression qu'on a le contrôle sur notre vie. Fait que si c'est ça le problème dans ma motivation par rapport à la tâche, j'ai l'impression que c'est trop rigide puis qu'on m'impose trop d'affaires, je serai pas motivée. Si c'est ça le problème, ben, je peux trouver des façons de me donner du contrôle dans la tâche. Par exemple, je pourrais voir si je peux décider quand est-ce que je vais la faire, avec qui je vais la faire, dans quel contexte je vais la faire. Il faut que j'essaie de me trouver du contrôle à quelque part. Puis là, je vais avoir un effet sur ma motivation. Puis la relation pédagogique, ça, c'est avec l'étudiant. Mais quand on parle des profs, on peut y penser de la même manière en pensant aux relations entre les collègues. Tu sais, si je suis dans un milieu de travail socialement que j'aime, socialement intéressant, je vais être plus motivée à travailler. Ouais.
Isabelle, comment on peut aider les professeurs à travailler plus en équipe et moins en silo?
Ça, c'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui affectent la motivation des profs qui ne peuvent pas vraiment être réglées par un conseiller pédagogique ou une conseillère pédagogique. Par exemple, les relations de travail. Si je n'ai pas des bonnes relations avec mes collègues, ça va être difficile de travailler en équipe. Le temps, c'est un autre problème qu'on a. Pour travailler ensemble, on manque de temps. Mais par contre, si je pense à ma super CP à moi, puis que je me demande comment on pourrait faire pour nous faire plus travailler ensemble, je pense qu'une bonne stratégie pour commencer serait de rendre explicite votre préoccupation de nos besoins. Ça va bien marcher, je pense. Je pense que si vous abordez l'équipe de profs que vous voulez faire davantage travailler ensemble en leur demandant d'abord, est-ce que ça vous tente de travailler davantage ensemble? Bien, ça va donner plus de contrôlabilité aux enseignants. Et si vous leur demandez, c'est quoi vos besoins? De quoi vous auriez besoin pour arriver à travailler davantage en équipe? Bien, ils vont sentir encore là que vous leur donnez du contrôle sur le moyen ou sur le processus à travailler ensemble. Puis ça va avoir de l'effet sur leur contrôlabilité par rapport au fait de vouloir travailler en équipe. Puis là, vous pouvez aussi aller essayer de jouer sur les autres déterminants. Oui, exact.
Comment on fait en tant que CP pour rester motivé soi-même ou retrouver notre élan professionnel, si on veut?
Il faut vous demander aussi où est la lacune dans votre dynamique motivationnelle par rapport à votre travail. Donc, c'est très personnel. Une personne pourrait d'abord conscientiser qu'elle se sent démotivée à son travail et ensuite se demander « Pourquoi je suis démotivée? » Puis là, penser au déterminant de la motivation. Si j'ai plus de plaisir dans mon travail, ça, c'est l'intérêt. Donc là, il faut créer des façons de stimuler mon plaisir au travail, l'intérêt pour le travail. Même chose pour les autres déterminants. Si je me sens moins compétent ces temps-ci ou moins efficace ces temps-ci, bien là, je pourrais créer des façons de stimuler mon sentiment de compétence dans mon travail à partir des connaissances que j'ai de ce déterminant-là.
OK. Isabelle, comment on peut transformer cette capacité à se motiver en opportunité de développement professionnel?
Ça, c'est vraiment une super belle question parce que c'est vrai que vous pouvez, dans votre développement professionnel, vous pouvez devenir des moteurs de motivation dans votre cégep. Je pense qu'en développant vos connaissances sur la motivation et ses déterminants, puis ensuite en vous pratiquant vous-même à stimuler votre propre motivation à partir de ces connaissances-là, vous pourriez devenir des vecteurs motivationnels pour vos collègues et les profs et les autres personnes du cégep. Vous pourriez donner de l'information sur la motivation aux gens qui viennent vous voir parce qu'ils en manquent, parce qu'ils ont des problèmes motivationnels, puis leur dire « Moi, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Regarde-moi, ça a marché. Essaye de créer ta solution, puis viens me revoir. »
Bien, t'entendre, Isabelle, c'est très motivant. J'espère devenir aussi crinquée que toi. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci à toi.
La série balado Les beaux rôles est une création d'Immersion CP, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Sherbrooke. Animation, Géraldine Lucier. Co-animation, Alexandre Dalpan et Marie-Noëlle Corriveau-Tendland. Scénarisation, Félix Arguin. Réalisation, Phonique. Merci à nos invités pour leur contribution.